Là, actuellement, elle est autorisée dans les... Enfin, si vous voulez, aussi, c'est quelque chose d'un peu étrange, hein, ça se distribuait sans ordonnance, il y a encore quelques mois, tout ça, et d'un coup, les gens pensent que c'est un truc qui va empoisonner les gens. Bon, c'est une décision politique, j'en sais rien, moi, c'est étrange. Si vous voulez, quand même, je prescris ça quand même depuis 25 ans dans les maladies infectieuses, hein, dans l'antichloroquine. Jusqu'à présent, personne ne trouvait que c'était un poison, ni que c'était... Donc, il y a 1 milliard de gens, qui ont pris de rien que dans les 20 dernières années de la chloroquine, si vous voulez. Et d'un coup, il y a des gens qui s'excitent en disant ça a tué une personne sur deux, si vous voulez, ça laisse faire, mais c'est un truc français encore, hein. Personne au monde ne se pose des questions de cette nature-là. Vous voyez, les Chinois, ils ont donné ça à 1 milliard de personnes, et puis voilà. Donc, si vous voulez, il y a une vraie question, mais qu'il faut poser aux sociologues, c'est pas à moi, hein, de savoir pour qu'est-ce qui amène, si vous voulez, à cette espèce d'état d'agitation, plutôt que des réflexions un peu sereines sur dans une situation épidémique, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de détecter les gens, isoler les gens contagieux, parce que regrouper ensemble des gens contagieux et non contagieux, honnêtement, ça c'est un défi à la connaissance des maladies transmissibles. Dès qu'on peut, il faut traiter les gens. D'ailleurs, je vois les Chinois, la première série qu'ils ont fait, qui était absolument ininterprétable, c'est parce qu'ils recevaient tous 3 antiviraux à la fois, ça leur donnait tout ce qu'ils pouvaient pour que les gens meurent pas, quoi.
Guillaume, une question.
Une réaction médicale, c'est raisonnable, vous voyez. Oui. Parce que c'est mieux de sauver les gens que de faire des méthodes, vous voyez.
Guillaume.
Oui, je voulais simplement savoir, Didier Raoult, en quoi les Chinois, justement, d'un point de vue scientifique, d'après ce que vous savez, ont des années d'avance sur nous.
Alors, écoutez, moi, vous savez, j'avais conseillé au ministre de faire les IHU, comme j'en ai fait un, moi, en 2002-2003. Mon rapport a été reçu du bout des doigts et pas communiqué. Et pourtant, vous pouvez le relire. À peu près tout ce qui se passe maintenant était à peu près prévu et organisé. J'étais un peu découragé parce que je suis allé à Shanghai en 2005. Vous voyez, et en 2005, ils avaient construit 2 ans après le SARS quelque chose qui est mon IHU multiplié par 10. Il y avait tout dedans, même les scanners en P3, même la salle d'opération pour les malades contagieux. Donc, leur niveau d'organisation était extrême. Ils avaient des difficultés de compétences et donc ils m'ont demandé de former quelqu'un pour l'analyse des séquences moléculaires parce que eux savent que je suis un grand scientifique quand même. Et donc, je leur ai appris. J'ai eu d'ailleurs une espèce de choc en me rendant compte de la vitesse à laquelle la recherche médicale s'organise en Chine. Vous savez, la Chine publie plus d'articles scientifiques que les États-Unis maintenant. Ils mettent autant d'argent que les États-Unis et la Chine a surtout conservé, ce qui est un peu paradoxal pour le pays de Mao, si vous voulez, une estime pour les élites qui est tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils foutent pas dehors. Ils sont dans l'inverse de ce que nous avons. Vous savez, il y a 20 ans, les meilleurs Chinois partaient de Chine pour aller un peu partout, y compris moi, j'avais des élèves chinois qui étaient partis aux États-Unis. Ils sont tous en train de rentrer en Chine parce que les Chinois leur font des propositions remarquables. Et nous, vous devriez regarder, en France, on a une fuite des cerveaux. Hein. Donc, il y a une attraction pour la recherche en Chine qui est considérable. Les chercheurs en Chine sont devenus des héros. Chez nous, les héros, c'est plus les footballeurs, les chanteurs et vous, hein, les commentateurs de télévision ou de radio. En Chine, quelqu'un qui fait un papier dans Nature, il a la même prime que quelqu'un qui a une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ça devrait nous amener à réfléchir. Donc, moi, je réfléchis. Et comme qui plus est, les Chinois ont un esprit extrêmement pragmatique. C'est-à-dire que, plutôt que de philosopher sur les différentes méthodes, ils agissent. Moi, je vois bien dans les maladies infectieuses que les seuls qui sont en compétition avec nous sur les grandes cohortes ou sur les identifications, c'est les Chinois et tout le groupe autour. C'est-à-dire Chinois, Taïwan, Corée, Singapour, tout ça a une puissance scientifique qui est absolument impressionnante. Et avec un pragmatisme, un développement technologique qui est incroyable. Et donc, je pense que nous, on est... Et c'est probablement une des crises que l'on vit dans cette situation, c'est de ne pas avoir, que l'Europe n'a pas été lucide sur cette évolution qui est en train de se faire, dans laquelle on se perd dans des réflexions qui ne sont pas de nature scientifique. Donc on laisse filer la science pour de multiples raisons. Donc vous voyez bien, en Europe, ce qui est important, c'est qu'il y ait 3 pays européens qui coopèrent. On s'en fiche, enfin moi je m'en fiche scientifiquement que les pays européens coopèrent. Ça c'est de la politique, c'est pas de la science. La science, c'est de produire de la science qui sert à quelque chose.
Pour la Chine, et ça sera ma dernière question, professeur Raoult, un des traitements prometteurs à l'étude et le remdesivir. Professeur Raoult, est-ce que vous y croyez?
C'est pas la question. Les Chinois n'ont pas dit ça. Les Chinois, au contraire, ils ont dit l'inverse de ce que vous dites. Donc, il faut remettre les choses en ligne. Les Chinois, quand ils ont commencé à travailler sur la sensibilité, ils ont rapporté que le remdesivir et la chloroquine étaient tous les deux efficaces. Et ils ont conclu, ce qui est une conclusion de bon sens, hein, qui est confusionniste, hein, c'est de dire, écoutez, il y a un médicament qui est pas cher, disponible partout, qu'on peut prescrire demain, donc on va travailler sur la chloroquine. Donc ils ne disent pas ce que vous avez dit, parce que pour travailler sur remdesivir et distribuer ça à 200 millions de personnes du jour au lendemain, c'est pas le faire.
Guillaume, une dernière question.
C'est simplement pas possible. Voilà, c'est juste qu'au bout d'un moment, il y a personne qui s'est mis à table. Ils disent, mais on peut pas faire ça dans une situation d'urgence. Un médicament qui n'a jamais été testé sur une grande échelle, dont on connaît pas la toxicité, versus, et on dit que le problème de la toxicité, c'est celui qui a été prescrit à des milliards de fois. C'est celui qui a un problème de, celui qui n'a pas été testé à un échantillon représentatif de la population, dont on connaît pas la toxicité. Bien sûr qu'il va la toxicité. N'importe quel médicament a toujours une toxicité. Et on la découvre quand on a fait des centaines de milliers de doses. Donc tout ça, bien sûr, les Chinois ont une conclusion, il suffit de lire leurs articles, hein, c'est pas du tout ce qu'ils disent. Ils disent, on va faire la chloroquine, parce que c'est la chloroquine qui est disponible. C'est tout simple. On peut utiliser, dans une situation de crise épidémique, que les médicaments déjà disponibles dans les pharmacies. Enfin,